Nous ne sommes pas ce matin en un temps de Pâques, mais c'est sur un récit qui se déroula le jour même de la résurrection du Seigneur que j'aimerais que nous nous arrêtions, parce qu'il a influencé énormément le comportement des disciples pendant les jours, les mois et les années suivant la résurrection et l'apparition du Seigneur. 40 jours entre le temps de la résurrection et l'ascension du Seigneur, 40 jours pendant lesquels Jésus s'est manifesté tout d'abord à des femmes, puis à un certain nombre de ses disciples, puis à d'autres. Et pourtant, à chaque fois qu'il s'est présenté à eux, tous, sans exception, ont eu beaucoup de peine à croire l'incroyable, savoir Jésus ressuscité. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait 40 jours durant ses apparitions, ses entretiens, ses manifestations extraordinaires? Tout simplement parce qu'il avait besoin d'encourager, fortifier la foi de chacun de ceux à qui il est apparu pour les préparer à des événements très difficiles, allant même jusqu'à la persécution, la mort, que certains de ceux de ses disciples à qui il s'est révélé, à les connaître. Je vous invite donc à lire un texte dans l'évangile de Luc, un texte bien connu au chapitre 24, un texte qui nous parlera, le Seigneur nous parlera, nous apprendra à vivre ce qu'ont vécu ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc Luc, chapitre 24, nous lirons à partir du verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. À travers ce texte et le comportement de ses deux disciples, je pense que nous pouvons tirer quelques enseignements utiles parce que nous pouvons vivre comme ses disciples des moments de découragement, de déception spirituelle, pour ne pas dire de diminution tangible de notre foi. Je vous invite à voir trois étapes de la journée de ces deux disciples d'Emmaüs, le jour même de la résurrection de Jésus. Et tout d'abord, une première partie qui s'intitulera « En chemin vers Emmaüs », une deuxième partie « Une rencontre inattendue et une révélation », et une troisième partie « Un retour précipité pour un témoignage ». Deux disciples en chemin. Alors, si j'ai lu le texte dans l'évangile de Luc, c'est que Luc est le seul à nous révéler en long, en large et en travers le récit de cette rencontre. Marc en parle en une phrase seulement. Il s'est révélé à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Quant à Matthieu et Jean, ni l'un ni l'autre n'ont rapporté cet événement. Deux disciples en route un dimanche après-midi de Pâques, en route vers un village, Emmaüs, situé à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Alors, de quoi parlait-il? Dans quel état se trouvait-il? Qu'attendaient vraiment ses disciples? Leurs propos, tout d'abord. Eh bien, sans aucun doute, ils s'entretenaient des événements qu'ils venaient de vivre, non pas les quelques heures précédentes, mais toute la semaine précédente. À Jérusalem, c'était l'effervescence, la fête de Pâques. Mais un événement extraordinaire, un événement douloureux, les a marqués. Ils ont sans aucun doute parlé de l'arrestation brutale du Seigneur, de la manière ignoble dont les pharisiens qui l'accusaient, le Sanhédrin qui l'a jugé et condamné, et Pilate qui a ordonné, comme les Juifs le demandaient, de le mettre à mort, l'ont amené sur cette croix. La brutalité également a sans aucun doute marqué ses disciples. Eux qui avaient l'habitude de voir Jésus plein d'amour et de compassion ont vu un peuple, ont vu des dirigeants manifester avec véhémence, avec force, avec brutalité, leur haine envers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pour dire, ces deux disciples ont sans aucun doute très mal vécu les événements. Ils attendaient un autre comportement de Jésus, qu'ils voulaient voir roi, mais roi sur Israël, et surtout un autre comportement du peuple, ce même peuple qui, 8 jours auparavant, acclamait Jésus à l'entrée de Jérusalem en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts », ce même peuple qui, au moment du jugement devant Pilate, a crié « Crucifie-le ». Leur état d'esprit maintenant, l'état moral, spirituel de ses disciples. Eh bien, si on voit un tout petit peu plus loin dans le texte, lorsque Jésus leur parle, on peut se faire un état de ce qu'était leur forme spirituelle. Ils n'étaient pas en grande forme. Ce n'était pas la joie, ce n'était pas une extériorisation de leur foi, bien au contraire. C'étaient des disciples tristes, abattus, découragés, ayant perdu tout espoir. Ils avaient certes, nous venons de le dire, été secoués par tous les événements. Ces deux-là étaient peut-être du nombre de ceux qui avaient vu Jésus sur le chemin le menant au calvaire. Peut-être même étaient-ils à Golgotha. N'oublions pas que c'était des disciples. Dès qu'ils avaient suivi Jésus, peut-être avaient-ils tout quitté pour le suivre. Écouter son enseignement, vu les miracles extraordinaires qu'il avait accomplis, et sans aucun doute, entendu avec quel amour, avec quelle compassion, le Seigneur prenait soin de toutes les brebis de la maison d'Israël. Mais celui qu'ils ont suivi écouté, adoré, a été enseveli et mis au tombeau. Il pensait que Jésus serait accueilli comme le Messie attendu, celui dont on disait « monts et merveilles » pour délivrer Israël de la main de l'oppresseur romain. Mais non, celui qui était annoncé par les prophètes, il est bienvenu. Oui, mais au moment où Jésus a prononcé devant ses disciples « voici mon heure », il n'attendait pas que l'heure dont Jésus parlait soit celle de sa mort. Et ses disciples, sans aucun doute, n'ont pas accepté tout ce qui est arrivé. La croix, la souffrance de Jésus ne faisait pas partie de leur programme, de leur manière de voir les choses. Ils préféraient une voie triomphale, comme celle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais pas l'heure de la croix. Ses disciples sont aussi craintifs et sans espoir. Il nous est dit qu'ils ont attendu la fin du sabbat, espérant que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. On peut se dire, ils ont gardé en mémoire des paroles de Jésus, disant que le troisième jour, il se relèverait. Mais en vain. Même les paroles de ces femmes présentes au tombeau, même le rapport des disciples, Pierre et Jean, qui sont allés sur le tombeau et qui ont vu ce que les femmes avaient dit, ne les a pas transformés dans leur attitude de dénégation de cette résurrection. Ils ont bien cru que quelque chose s'était passé, mais lui, le ressuscité, ils ne l'ont pas vu. C'est un petit peu l'attitude, le comportement que, quelques heures plus tard, Thomas aura, alors qu'il ne se trouvait pas dans la chambre haute avec les autres disciples. Ils étaient incrédules, comme Thomas. Et ils décident donc de quitter Jérusalem. Pour eux, la vie qu'ils ont vécue avec Jésus, ces mois, ces années peut-être, cette belle aventure est terminée. Ils ont tiré un trait dessus. Et je me dis, que de fois sommes-nous comme ses disciples, dans des situations difficiles, perte d'emploi, famille dans le deuil, difficulté dans la famille, et où nous ne regardons pas au lendemain, nous ne mettons pas notre espérance dans celui en qui nous avons cru, où nous sommes comme ses disciples sans réelle confiance, sans espoir. C'est dans ce contexte déprimant pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs que Jésus va intervenir. Et nous abordons maintenant le deuxième point, une rencontre inattendue et une révélation. Ces deux disciples marchent donc tristement. Et le texte nous dit, cette parole extraordinaire, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quelle image ! Le Seigneur est là. Il a vu ses disciples. Il a vu leur état. Il vient. Il vient. C'est une arrivée qui est inopportune, inattendue. Et pour les disciples, nous le verrons inespéré. Mais c'est un moment crucial, un moment où Jésus va se révéler. Et pour nous, je dirais que c'est une grâce, quand nous sommes dans les difficultés, de voir le Seigneur venir vers nous, s'approcher de nous et faire exactement la même démarche que celle qu'il a eue envers ses deux disciples d'Emmaüs. Alors le texte nous dit qu'ils ne le reconnurent pas. Non pas parce que son aspect avait changé, comme quelques-uns le prétendent, mais plutôt parce que leurs yeux, comme le dit le texte, étaient obscurcis. Quand on a des fois pas envie de voir quelque chose, on ne le voit pas. C'était le cas. Jésus arrive un petit peu incognito. Il ne va pas faire du bruit. il ne va pas crier haut et fort « Je suis Jésus, le ressuscité !» Non. Non. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps qu'il va être avec eux, ce temps qu'il va passer à parler avec eux, il va d'abord les écouter avant de ne les enseigner. Et remarquez le comportement extraordinaire de Jésus. Il sait tout. C'est Dieu. Et pourtant, il feint d'ignorer tout ce qui vient de se passer à Jérusalem. Quoi ? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ? Pourquoi Jésus agit-il ainsi ? Ben, tout simplement parce qu'il ne veut pas focaliser l'attention sur lui. C'est de ses disciples, de ces hommes en mal de vivre, de ces hommes déprimés, qu'il veut s'intéresser. Et voilà que Jésus va, par ce comportement, susciter le dialogue. Et il va d'abord laisser ces hommes parler. Il ne se contente pas d'être là, il se soucie de ses deux disciples. Il souhaite connaître le fond de leur cœur, car c'est dans le dialogue que va s'instaurer une véritable relation qui va transformer la vie de ces deux disciples et affermir surtout leur foi. Cléopas, tout étonné de trouver quelqu'un paraissant ignorer ce qui vient de se passer, lui dit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Verset 18. Le Seigneur cherche pour nous également toujours à entendre ce qui, dans notre relation avec lui, nous trouble ou fait que cette relation est atténuée, voire parfois disparaît. Quelle est la réponse des disciples ? Je relis le texte. Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ces paroles de Cléopas montrent son incrédulité et l'incrédulité de son compagnon. Mais elles révèlent aussi une erreur fondamentale dans la conception qu'ils avaient du ministère du Seigneur. Il est clair qu'ils attendaient un Messie libérateur, mais pas libérateur de leurs péchés, libérateur du peuple, libérateur du joug romain. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ces paroles, elles dépeignent fidèlement l'état des disciples, hommes et femmes. On cherche son corps pour l'embaumer, mais on ne l'a pas vu. Ces deux disciples paraissent vraiment convaincus que toute l'histoire qu'ils viennent de vivre, toute cette relation de semaines, de mois, d'années avec le Seigneur, a pris fin avec sa condamnation à mort, avec sa crucifixion au calvaire et avec sa mise au tombeau. Et voilà que maintenant, par les paroles que Jésus va leur apporter, ce qu'il avait à l'un et l'autre de ses deux disciples empêché de comprendre le sens de tant de paroles de Jésus durant son ministère, va leur être révélé maintenant. Ses disciples étaient vraiment tout en bas, tout en bas. Et il a fallu que Jésus les pousse dans leur dernier retranchement. Mais oui, voilà, voilà ce qu'on voulait, voilà ce qu'on attendait. Pour que Jésus, simplement, en ouvrant, en rappelant à chacun d'eux des textes des prophètes des Écritures va leur parler de lui. Il ne s'est pas révélé, mais il va révéler tout ce qui, dans la parole de Dieu, le concerne. Combien de fois nous sommes comme ces deux disciples, ayant du mal à cacher nos déceptions, nos incertitudes, nos regrets. Nous espérions que, nous pensions que. Et c'est là qu'arrive la réponse de Jésus, au verset 25. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est fort. Homme sans intelligence et sans foi. Des gens qui l'ont suivi, des gens qui ont tout quitté pour lui, accusés d'être sans intelligence et sans foi. Mais Jésus va les faire avancer et leur faire comprendre le sens réel de sa venue. Il va faire le point avec eux. Il va corriger, rectifier leurs erreurs. Et il va leur faire, avec patience, découvrir tout ce qui, dans les Écritures, le concerne. D'une manière juste, d'une manière complète, avec un seul but, renouveler l'espérance, augmenter la foi, donner de l'assurance. C'est un message très fort, très riche, que les disciples vont entendre à partir des quelques textes que Jésus, il ne nous est pas dit lesquels, mais il nous est parlé des prophètes, de la loi et des prophètes, tout ce qui concernait Jésus va leur être rappelé. Et il nous est dit, ce n'est pas écrit textuellement, mais il nous est dit que, alors que Jésus semble vouloir aller plus loin que le village dans lequel ses deux disciples sont arrivés, Emmaüs, les disciples oubliaient même qu'ils étaient arrivés. Et ils ont invité Jésus, ils l'ont pressé de manière urgentissime à rester avec eux. Comme ses disciples. Nous avons besoin de sonder, d'étudier la parole de Dieu, de lire et de relire des passages qui, peut-être aujourd'hui, ne nous ont rien dit, ne nous ont pas touchés, mais qui demain, dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 année, nous marqueront au plus haut point. Nous avons besoin de prendre en compte la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et ne pas avoir des lectures partielles de certains textes qui nous plaisent en laissant d'autres de côté. Remarquez le comportement de Jésus. Il a touché ses deux disciples. Ce n'est pas Jésus qui s'est invité. Il aurait eu sans aucun doute beaucoup de choses encore à leur apprendre. Mais Jésus ne s'est pas imposé. Il voulait aller plus loin, continuer sa route. Il ne nous est pas dit où. Mais ces deux disciples, qui ne l'ont toujours pas reconnu, l'invitent à venir prendre avec eux un repas et passer la soirée. Rien ne te presse, viens avec nous. Et Jésus accepte, parce qu'il a reconnu que ces deux hommes avaient besoin de lui. Un travail avait été fait, mais pas un travail qui était complet. Il ne l'avait pas reconnu comme le Fils de Dieu, le Messie, le ressuscité. C'est la raison pour laquelle il accepte de rester et partager le repas. Quand on agit ainsi envers lui, Jésus ne se refuse jamais. Il entre. Apocalypse 3:20, un verset que vous connaissez, et qu'on a encore relu il n'y a pas très longtemps, qu'on a étudié le livre de l'Apocalypse. Voici, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et Jésus est entré, et Jésus a soupé. Et ses deux disciples vont vivre un instant mémorable. C'est à table, lors du repas, que tout va se jouer. Jésus est invité, mais il prend la place du maître de maison. C'est lui qui rompt le pain, c'est lui qui prie, c'est lui qui distribue. Alors, qu'est-ce qui, à ce moment-là, a provoqué chez ses deux disciples un changement complet dans le comportement et la manière d'être devant celui qu'ils reconnaissent comme Jésus, le ressuscité? Rien ne nous est dit. Peut-être la forme, la prière, la manière de donner le pain, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, un instant solennel. Peut-être que ces deux disciples, on n'en a aucune preuve, avaient été présents à un moment où l'autre, où Jésus, lors de la multiplication des pains, lors de l'instauration de la scène, avait prononcé des paroles du même genre. Toujours est-il que le texte nous dit qu'à cet instant, leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Un geste simple qui a manifesté l'amour du Seigneur pour les siens, la manière dont il veut les faire grandir, leur faire reconnaître qui il est et tout ce qui est dit de lui. Et c'est au moment où il est reconnu que Jésus disparaît de leurs yeux. Il fallait qu'il rapporte aux autres ce qu'il venait de vivre. Et nous en arrivons à notre troisième point, un retour précipité et un témoignage. Alors on ne sait pas ce que ces deux disciples étaient venus faire à Emmaüs, certainement quelque chose d'important, ou retrouver une famille, ou retrouver une activité qu'ils avaient peut-être avant dans cette localité. Toujours est-il qu'il nous est dit que prenant conscience de ce qu'ils venaient de vivre, du témoignage qu'ils avaient entendu de Jésus le ressuscité, ils oublient leur fatigue, 11 kilomètres, et repartent illico vers Jérusalem. N'oublions pas que si le trajet aller a été fait de jour, celui-là va être fait de nuit, avec toutes les conséquences possibles de mauvaises rencontres. Mais ils ont le besoin d'aller témoigner, raconter, exprimer à tous les disciples, les autres restés à Jérusalem, ce qu'ils viennent de vivre. Ils l'ont vu, lui, le ressuscité. Et il nous est dit qu'arrivés en ville, ils retrouvèrent les apôtres rassemblés. Mais c'est extraordinaire. Avant qu'ils aient pu raconter ce qu'ils venaient de dire, on les accueillit par cette nouvelle extraordinaire. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ils arrivent pour apporter une nouvelle extraordinaire. Paf ! On leur coupe les sous le pied. On sait déjà qu'il est ressuscité. Mais il nous est dit, et le texte nous apprend, que les 11 ont écouté ce que ces deux disciples leur ont raconté. Ils étaient heureux. Ils ont été touchés. Ils ont été dans la joie. Parce qu'ils n'étaient pas apparus qu'à quelques-uns, à Simon, mais à deux autres disciples. Ceux-là qu'il avait lâchement abandonnés. Manifestaient alors leur abandon et, d'une certaine manière, leur désespoir, sont maintenant en la présence de Jésus. Il n'est pas encore là. Hein. Tous ne l'ont pas vu. Mais retrouver une joie de vivre, une expression radieuse sur leur visage, parce qu'ils savent que celui qu'ils ont aimé, suivi, écouté, adoré, est revenu à la vie. Et quelques minutes plus tard, cette même soirée, cette même nuit, le texte nous dit que le récit de ces voyageurs fut interrompu par l'entrée brutale du Seigneur dans cette chambre. Il vient au milieu d'eux et leur adresse cette parole extraordinaire, « La paix soit avec vous ». Ceux qui étaient dans la crainte, ceux qui étaient dans le désespoir, ceux dont la vie semblait être ruinée, sont maintenant en présence du Maître qui les rassure. Et pourtant, que nous est-il dit ? Phrase suivante. Il croyait voir un esprit. C'est encore, d'une certaine manière, un manque de certitude, un manque de foi. Il en est souvent de même pour nous. Alors que Jésus nous montre, par sa présence, par ses actions extraordinaires dans nos vies, par son amour pour nous, qu'il nous aime et veut prendre chaque jour soin de nous. Il a fallu que Jésus montre ses mains, ses pieds, que présent, absent ce moment-là, présent quelques jours plus tard, Thomas mette la main dans son côté pour être sûr que Jésus était bien le ressuscité. Ma conclusion, qui est en même temps une prière, c'est que ce matin, nos yeux s'ouvrent, comme s'ouvrirent ceux des disciples d'Emmaüs ou ceux des apôtres. Quoi que nous soyons, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation devant lui, soyons persuadés que Jésus s'intéresse à nous et que comme il s'est manifesté à ses disciples d'Emmaüs, il est vivant. Certes, il est remonté au ciel, un grand nombre de ses disciples l'ont vu, mais de son ciel de gloire, il nous voit chacun en particulier. Et son désir le plus cher est que nous le laissions faire route à nos côtés. Lui, le ressuscité. Laissons-le entrer. Sa présence a éclairé la vie de ses deux disciples. Elle a ouvert leurs yeux, guéri leur incrédulité, leur aveuglement, leur mauvaise compréhension. Sa présence les a rassurés et encouragés à témoigner. Comme ses deux disciples à la tombée du jour, n'ayons pas peur de dire à Jésus, quelles que soient les circonstances, reste avec nous. Amen.